Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy. Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Vous connaissez peut-être ces tableaux où des mains blanches s'allument de rouge en protégeant la flamme d'une bougie. Vous avez vu peut-être ces visages abîmés par l'âge ou la misère se tordre en jouant un air de vielle. Vous avez compris peut-être en voyant la tête d'une femme se courber au ras du haut de la toile que la vie pesait sur elle de toute sa tristesse. Vous avez aimé ces saintes roides comme des sculptures, ou les gestes d'un ange sans ailes qui apparut dans une chambre nocturne et qui balance un bras élégant comme une étoffe souple soulevée par le vent. Ces lumières, ces tricheurs, ces misérables, c'est Georges de la Tour qui les invite sur ces toiles mondialement connues maintenant après avoir été oubliées. Or, un livre récemment publié aux éditions Cohen et Cohen fait toute la lumière possible sur les belles ombres de sa vie. Et son auteur, Robert Faure, est avec nous. Bonjour Robert, comment allez-vous ?
Écoutez, je vais très bien, je vous remercie. Je suis un peu enrhumé, je pense que ça s'entendra.
C'est un beau titre, hein, Le Maître des Nuits, c'est le titre du livre.
Oui, en fait, ce titre, je l'ai ajouté parce que je pense que ce sont les nuits qui ont fait la célébrité et la singularité de Georges de la Tour au XVIIe siècle. Non pas que la nuit soit un thème nouveau dans l'histoire de la peinture occidentale, mais il en a vraiment fait le centre de sa création.
Alors on va en parler, et pour en parler, nous avons également avec nous le professeur Philippe Dagen. Philippe Dagen, historien d'art bien connu, professeur d'histoire de l'art à Paris 1, Panthéon Sorbonne, prestigieuse université, et... connaisseur, puisque vous avez déjà écrit en 2006 sur Georges de la Tour dans un quotidien. Était-ce un quotidien ?
Je pense que c'était déjà un quotidien.
Déjà un quotidien du soir.
Ah oui, je crois, oui.
Et vous nous faites l'amitié d'être là parce que vous êtes passionné de peinture, alors que vous êtes en train de mettre la dernière main à un livre essentiel que vous préparez, une sorte d'histoire culturelle. De quoi ?
Des primitifs. De la notion de primitif.
Mais de primitif au sens siennois ou au
non,
sens...
Pas du tout. Au sens sauvage, ou au sens aliéné, ou au sens populaire, ou au sens enfantin. Enfin, tout ce qui a couru depuis le milieu du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, pour l'essentiel.
Merci d'être avec nous. Ça va être un très beau projet. C'est un très beau projet. Et peut-être, souvenons-nous qu'il n'y a pas si longtemps que nous connaissons Georges de la Tour. Écoutons ce qu'on en disait en 1934, probablement.
De la Tour, naguère inconnu, doit entrer avec éclat dans l'histoire de l'art français. Est-ce un médiocre titre de gloire que d'avoir à son compte des peintures qui, pendant des siècles, passèrent pour des œuvres de Velázquez ou de Zurbarán, ou d'autres auxquelles on attacha le nom de Vermeer ? Tous les raffinements d'un style extrêmement personnel, toute cette admirable simplification du sujet, de l'éclairage, des volumes et silhouettes, ne servent ici qu'à exprimer les plus profonds penchants de l'âme. Charles Sterling, 1934.
Robert Faure, vous êtes avec nous parce que vous avez écrit ce livre Georges de la Tour, le maître des nuits. Et évidemment, on oublie tellement il nous est familier, si je puis dire, tellement il est rentré dans l'imagerie populaire qu'en 1934, nous découvrions la tour. Cette exposition était quoi et qu'est-ce qu'on a découvert vraiment ?
C'est une exposition organisée par Charles Sterling et Paul Jameau, les peintres de la réalité. dans laquelle pour la première fois, peintre de la réalité en France au XVIIe siècle, dans laquelle pour la première fois on voit, une quinzaine d'œuvres de Georges Latour. La redécouverte de Latour s'est faite rapidement à la fin du XIXe siècle. C'est un peintre qui était complètement tombé dans l'oubli, à tel point que les tableaux conservés dans les musées français, par exemple à Nantes, étaient généralement attribués par des gens comme Stendhal, par Mérimée, qui était de passage, à des artistes notamment espagnols, hein, parce que ce réalisme très poussé était, pour l'époque, forcément d'origine espagnole. C'est une redécouverte qui se fait d'abord par l'érudition, l'érudit lorrain Alexandre Joly, qui publie en 1863 des documents. Ensuite, un jeune historien d'art allemand, Hermann Foss.
Très intuitif.
Rapproche, ouais. Attribue deux tableaux de Nantes à Latour, deux des trois tableaux du musée de Nantes, les lui rend.
C'était lesquels?
C'était le...
Le Vielleux?
C'était le Vielleur... l'apparition de l'ange à Saint-Joseph.
À Saint-Joseph. Donc deux tableaux complètement différents et qu'on pourrait penser ne pas être de la même main tellement absolument. L'un est diurne, l'autre nocturne, absolument. L'un est tragique, l'autre est métaphysique.
Cela dit, aujourd'hui, quand on voit une œuvre de Latour, on n'a pas de doute. Les tableaux qui ont été redécouverts récemment, il y en a depuis l'exposition du Grand Palais en 97, on a retrouvé deux tableaux. Le Saint-Jérôme, notamment de Madrid, dans les couloirs d'un ministère. Hein. Ce tableau c'est un artiste d'une singularité absolument inconfondable. Alors que c'est ce que j'essaye d'expliquer dans mon livre, les caravagesques. Il y a beaucoup de problèmes d'attribution dans le milieu caravagesque. Il n'y en a jamais avec Latour. C'est un peintre à la singularité irréductible.
Alors vous allez nous dire cela, mais quand même, je voudrais poser une question à Philippe Dagen, puisque vous avez la gentillesse d'être avec nous. Deux choses, peut-être, deux questions différentes. Dans cette exposition de Sterling de 1934, c'est un moment où on a découvert d'autres artistes français ou ça a été la découverte ?
Non, je pense qu'on peut dire que ça a été la découverte. Ceci étant, le contexte et la notion de réalité d'une part et de peintre français d'autre part, dans cette période-là particulièrement, n'était pas...
Dans un moment de tension et où il y avait...
Oui, non, c'est moins peut-être une question de tension que la volonté de donner une nationalité à un peintre qui, après tout, d'ailleurs, n'était pas français. Il était lorrain. Et d'autre part, la notion de réalité, mais alors là, ça nous entraînerait, je crois, assez loin de l'ouvrage. On est dans une période où il y a un véritable débat sur la notion de réalisme. Latour et d'autres arrivent, si l'on peut dire, au bon moment pour renforcer une certaine idée selon laquelle, au fond, la réalité est on pourrait dire presque une tradition, une constante de ce que l'on appelle précisément à cette époque-là l'art français, la peinture française. Donc une espèce de conjonction de deux facteurs.
Pardon Philippe, encore une question, on entendait Sterling tout à l'heure dire on l'a pris parfois pour Vermeer, parfois pour Zurbaran, parfois pour un auteur romain. Comment on peut voir un artiste à cette époque-là sans savoir s'il est dans des écoles qui sont pas sans lien, évidemment, on voit bien ce que représente l'Espagne à ce moment-là, par rapport à la Hollande, mais quand même éloigné. Comment est-ce qu'on peut... C'est étrange, ces différents styles auxquels on l'attribue.
C'est une question à laquelle il me semble extrêmement délicat de répondre. Latour n'étant d'ailleurs pas le seul exemple d'artiste dont la redécouverte date de la fin du XIXe siècle, dont les œuvres, je pense à prendre un exemple d'un artiste qui est totalement différent stylistiquement, on pouvait voir des Latour, on pouvait voir des Gréco. Pour autant, on ne les avait pas vus. C'est-à-dire, ils sont là, ils ne sont pas là. Le regard n'est pas ajusté à ses œuvres. Et donc, ces rapprochements, cette idée qui permettra à la longue de créer une unité, elle est au fond inaccessible tant que on n'a pas simplement au fond, pris conscience, même pas de la singularité, mais juste qu'il y a là quelque chose qui mérite d'être vu. Le poids de... on parlait tout à l'heure...
On voit que ce que l'on sait qu'il faut voir.
J'en ai bien peur. Ouais. Et la peinture française, ce qu'on entend par peinture française en 1880, 1890 ou en 1900, du XVIIe siècle, elle fait pas place à la tour. Elle est organisée autour de Poussin, Lorrain, un certain nombre de grands maîtres. Et lui,
extraterrestre.
C'est un extraterrestre. Donc, il peut en effet être espagnol, il peut en effet être hollandais. Mais au fond, on en a cure.
Robert Faure. On connaît Caravage et Valentin au XIXe siècle.
On connaît surtout Caravage.
Oui, et Valentin aussi.
Oui.
Il y a des Valentins, reconnus comme tels, alors, dans les collections françaises.
Valentin de Boulogne, artiste qui vit à Rome, qui meurt à Rome, oui, d'ailleurs.
Qui meurt à Rome en 1732, voilà.
Et qui est très proche dans les sujets, et particulièrement dans les sujets d'urnes, avec la tour.
Oui, alors ça, c'est une autre question. Parce que, moi, personnellement, ma position, c'est que la tour ne doit pas tant que ça au caravagisme.
Pourtant, vous l'avez associé immédiatement dans notre conversation au caravagisme.
Oui, parce que
la tour caravagesque.
Oui, c'est vrai et c'est pas vrai en même temps.
Mais enfin, comment vous voulez que je m'y retrouve? C'est vrai ou c'est pas vrai?
Toute la question, c'est la question de... Vous savez, une des questions qui se pose pour la tour, c'est la formation de la tour, pour laquelle on ne sait rien.
Mais ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous venez de faire 300 pages sur un livre sur lequel... Non, mais sur un artiste dont on ne sait rien.
Dans mon livre, on ne sait rien. C'est un artiste dont on ne sait rien entre la date de sa naissance, en mars 1593, et sa réapparition en Lorraine en 1616. Il y a un document parisien en 1613, et toute l'idée, c'est...
Donc en 1613, il est à Paris, et avant, il est à Rome. C'est simple, tout le monde va à Rome.
Alors, écoutez, j'ai fait beaucoup de recherches à Rome, comme d'autres historiens d'art. On n'a aucune trace de Georges de la Tour à Rome, ni en Italie, alors que les artistes lorrains, comme vous savez, sont assez nombreux à Rome, et pas simplement les artistes, qu'il y a beaucoup de documents sur ces artistes, même des artistes un peu secondaires aujourd'hui, Claude de Rouet, premier peintre du duc de Lorraine, Jean Leclerc, etc. Tous ces artistes sont documentés. La tour, qui est maintenant considérée comme un des plus grands peintres français du XVIIe siècle, et qui, à l'époque, est... très vite reconnu comme un très grand artiste. Mais on
va en parler après, mais c'est vrai qu'il faudra en parler.
Et bien sur la tour, il n'y a rien. Dans les archives des cardinaux, dans les archives des établissements français et lorrains, dans...
Qu'un artiste lorrain, avant de venir à Paris en 1613, peut être un artiste de Lorraine, installé en Lorraine? Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe d'Agen?
Je n'ai pas plus de titre à répondre à la question qu'en effort, mais il y a en tout cas en Lorraine une cour, des princes, des ecclésiastiques. Enfin, il y a en tout cas, si vous faites une réponse quasiment marxiste, il y a une structure politique et économique suffisante pour que des artistes puissent s'y épanouir, y vivre, sans avoir besoin de sortir de ce royaume.
Donc c'est pas exclu, Robert Faure.
Alors, cela dit, c'est tout à fait vrai. Il y a une cour en Lorraine, assez prestigieuse, avec des alliances internationales importantes, et notamment avec l'Italie. Un des artistes qui fait le go-between entre l'Italie et la Lorraine, le duché de Lorraine, c'est Pourbus. Pourbus qui, d'ailleurs, est probablement responsable en partie de l'arrivée d'un Caravage, l'Annonciation à Nancy. Alors, Caravage, il est présent en Lorraine, dès 1608. Mais la tour, on peut penser qu'il a étudié en Lorraine, mais on le retrouve à Paris. Et en fait, toute la question, c'est de savoir ce qu'est la scène artistique parisienne au temps d'Henri IV. Qu'on a complètement effacé, ou plutôt caricaturé d'une espèce de maniérisme finissant, exténué de la seconde école de Fontainebleau, alors qu'en fait, Paris est une très grande capitale à l'époque, qu'il y a beaucoup d'artistes à Paris, il y a une communauté de peintres qu'on a voulu également effacer parce que c'était la volonté de l'Académie qui a été créée dans les années 1648, l'Académie royale de peinture et sculpture, qui a fait vraiment le blackout sur cette communauté qui, au début du XVIIe siècle, devait compter environ 100 ou 150 artistes. C'est un foyer international parce que c'est un lieu de passage. Les artistes du Nord, par exemple, qui vont en Italie, passent par Paris. À côté de Paris, il y a la seconde Rome, il y a Fontainebleau. Et les artistes passent à Fontainebleau. Donc, si vous voulez, ce foyer-là, il est à...
Ils vont regarder les Primatis, ils vont regarder...
Absolument, ils vont regarder les bronzes de François Ier. Et puis Fontainebleau était dans un état un peu différent de ce qu'il est aujourd'hui, à l'époque. Et ça, c'est un peu la thèse de mon livre. C'est que, au fond, Paris... pouvait suffire. Il y a des artistes lorrains à Paris et des artistes relativement importants comme Georges Lallemand, qui est un artiste réaliste, maniériste. Enfin, donc, si vous voulez, les conditions étaient réunies pour former un artiste comme Latour. Il y a une tradition réaliste, il y a une tradition de portrait surtout. C'est le poète italien Marino, invité par le Cavalier Marin, invité par Marie de Médicis, qui observe la scène artistique parisienne et qui dit « ils ne savent faire que des portraits ». Mais vous savez, Georges Latour est un très grand portraitiste.
Très grand,
oui. Il a probablement d'ailleurs peint des portraits, mais on n'en conserve pas. Donc, si vous voulez...
Moi, j'ai des infos, je vais vous les faire passer, sur Latour, comment il était, quelle gueule il avait, etc. Écoutons-le.
Au physique, c'était un homme haut, épineux, très maigre, jaune comme un coing, brusque. Il se tenait le dos très droit, de façon étonnante, le regard fixe, les lèvres serrées l'une sur l'autre. Il était plein d'embarras, mais il était capable de gaieté. Il aimait jouer aux cartes avec ses filles en buvant du vin. Il fumait alors, chaque soir, une longue pipe en terre d'Ardenne. Il n'était guère assidu à suivre la mode. Il portait les cheveux noirs ramassés, comme au temps des guerres, et autour du cou, la fraise, quand il sortait. Il avait été présenté au feu roi dans sa jeunesse, et de ce jour, sans qu'on sût pourquoi, il n'avait plus mis les pieds au Louvre, ni au château vieux de Saint-Germain. Il ne quitta plus le noir pour ses habits. Il était aussi violent et courroussable qu'il pouvait être tendre. Quand il entendait pleurer durant la nuit, il lui arrivait de monter la chandelle à la main à l'étage et, agenouillé entre ses deux filles, de chanter « Sola vivebat in antris Magdalena, lugens et suspirens diac nocte ». Pascal Quignard, Tous les matins du monde, 1991.
Vous êtes sur France Culture et vous écoutez L'art et la matière et nous parlons de l'extraordinaire peintre du XVIIe siècle, Georges Latour, à l'occasion de la sortie du livre de Robert Faure, qui est un livre essentiel puisque c'est la suite d'une enquête très ancienne entreprise par vous il y a près de 30 ans, Robert, n'est-ce pas? Georges Latour, le maître des nuits, et nous explorons avec Philippe Dagen et Robert Faure l'énigme Latour. Et dans les énigmes Latour, nous venons d'élucider deux choses. D'abord, à quoi il ressemblait. Donc ça, c'est grâce à Quignard. C'est une fiction, mais quand même, il a sûrement une bonne intuition. Et nous avons élucidé autre chose, c'est que nous savons que peut-être il n'est pas passé à Rome. Il s'est peut-être contenté de la Lorraine et de Paris. Mais je voudrais basculer complètement de l'autre côté de sa vie, que nous allons explorer dans cette émission en détail, pour vous demander à l'un et l'autre pourquoi Latour, entre sa mort, en quelle année à peu près, Robert Faure ?
52. 30 janvier 1652.
Entre 1652 et 1934, pourquoi a-t-il disparu des radars? Qu'est-ce qui s'est passé, Philippe d'Agen?
Je crois qu'on a déjà en partie répondu à cette question. La tour n'est pas dans les canons de l'Académie royale de peinture. Donc
ça suffit, ça? Quand on a été peintre du roi,
je pense que c'est un handicap sérieux, oui. D'autant que les artistes ne sont peut-être pas tous, malgré tout, animés entre eux par un sentiment de fraternité, de solidarité tel que
vous avez remarqué ça.
Oui, j'ai cru remarquer ça. Et quelque chose me donnerait à penser que les artistes de 1660, au fond, ne se conduisaient pas nécessairement si différemment de ceux que nous pouvons tous les trois croiser à l'occasion. Et puis ensuite vient un siècle où cette peinture, qui est quand même une peinture dont les sujets sont très généralement des sujets religieux, n'est plus au goût du jour. Imaginez la tour au temps de Boucher, on n'en a que faire. Et puis l'histoire continue, c'est-à-dire que l'oubli continue. Encore une fois, ce sont des événements dont d'autres artistes ont été victimes.
Ou peut-être la famille, peut-être qui n'a pas joué son rôle.
Absolument. Je pense, alors il y a un changement du goût, ça c'est certain. Parce que des Latours, il y en avait dans les grandes collections parisiennes. Et non des moins, il y en avait chez le roi. Enfin, même. Le roi Louis XIII en a eu un.
Le roi...
Où était-il? Je ne sais pas.
Et cette légende que le roi aurait décroché tous ses tableaux pour pouvoir vivre avec son Latour.
En fait, on dit que Latour est venu à Paris en 1639. On a un document pour le service du roi. Et donc, on associe
Il était déjà là en 1613. Il n'est pas revenu. Il
était à Paris. Il faisait beaucoup la navette. Il avait un logement aux Galeries du Louvre. C'était un privilège que lui avait concédé le roi. Il avait un facteur à Paris, c'est-à-dire un agent qui vendait ses tableaux.
Une galeriste, on peut appeler ça.
Un agent qui était
un lourd facteur, par exemple. Tu vois,
qui faisait la navette entre Nancy et Paris, lui aussi. Donc la tour y venait, c'est certain. Il y a des moments dans sa vie où on ne sait pas où il est. Il y a la guerre en Lorraine, hein, à partir des débuts des années 1630. C'est la guerre de 30 ans.
À partir de quand?
Début des années 1630.
D'accord.
La guerre de 30 ans commence avant.
Quand il est arrivé à Paris, en 1613, il n'y avait pas encore la guerre en Lorraine.
Non, c'est
venu plus tard.
La guerre en Lorraine vient plus tard. La guerre de 30 ans s'étend à la Lorraine à la fin des années 1620, début des années 1630. Et là, c'est vraiment un déferlement. Et la Lorraine change du tout au tout. C'est un pays qui va être ruiné. Totalement. La tour est atteinte par ça. Lunéville, où il habite, est entièrement brûlée en 1638. Il est probable qu'une partie de son œuvre disparaît à ce moment-là. Alors, la famille... Georges Latour, comme beaucoup de gens de son époque, rêvait d'être anobli. Pourquoi? Parce que quand on était anobli, on ne payait pas d'impôts. D'abord, puis c'était un statut social, évidemment, extrêmement recherché.
Mais il s'était bien marié, non?
Il n'y est pas arrivé.
Il s'était marié.
Il s'est bien marié.
Un beau mariage.
Il n'est pas arrivé à deux choses. Il n'est pas arrivé à se faire ennoblir. Il n'est pas arrivé à être le premier peintre du duc de Lorraine. Le poste était occupé. Ce qui explique d'ailleurs son installation dans une résidence ducale secondaire à Lunéville. Ce qui était assez intelligent de sa part. Et en fait, je pense qu'il a toujours pensé, il a acheté des maisons à Lunéville, par exemple, il a eu une commanderie qui lui procurait des privilèges et des exemptions. Et je pense que ça a été, comme chez beaucoup de ses contemporains, c'est pas propre à la tour, un des grands soucis de sa vie, s'enrichir et parvenir à ce statut. La chose se conclut.
Je suis accablé par ce que vous dites, parce que...
Non, mais...
C'est tout le corps social, à partir d'un certain niveau, prétendait à la noblesse. C'est une grande affaire, de l'Ancien Régime.
Je le comprends, et j'aime assez l'Ancien Régime, d'ailleurs. Mais
Pensez à Rubens faisant toutes sortes de manigances diplomatico-mondaines.
Pensez
à Velázquez, ce sont des artistes immenses, et ils n'en ont pas moins eu un appétit de reconnaissance, de situation sociale, qui nous paraît... qu'on a peine à comprendre, puisque nous ne vivons plus du tout dans une société qui est organisée comme elle l'était la leur. C'est tout. C'est pas plus grave que ça, non plus.
Bon, c'est pas grave alors, Robert.
La tour mort, son fils va y arriver. Et c'est une des raisons, probablement, la famille n'a pas du tout entretenu la mémoire de ce qui était finalement une activité roturière.
Voilà.
Ça a joué incontestablement. Par ailleurs, c'est un aspect important parce que Latour, quand il s'installe à Lunéville, il demande au duc de Lorraine, Henri II, il lui demande des exemptions fiscales. Et qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui dit qu'il a épousé une fille noble et qu'il pratique un art noble de soi, ce qui est une idée très humaniste. Enfin, mais il ne lui dit pas qu'il est allé en Italie. Or, De Rouet, par exemple, va rappeler qu'il a vécu à Rome, qu'il est allé en Italie. C'était un argument supplémentaire pour dire que Latour n'est pas allé en Italie. Oui, il ne s'en est jamais prévalu. Or, c'était un label, enfin,
bien sûr,
extrêmement important. Voilà.
Si je disais tout à l'heure que j'étais surpris du fait qu'il ait voulu participer au bien de ce monde et à accéder à quelques privilèges, évidemment c'est de façon amusée, mais c'est parce que ça s'oppose à la profondeur dégagée de toute matérialité de son œuvre. On a l'impression d'avoir des œuvres faites par un artiste absolument mystique et pour lequel tout ce monde matériel n'existe pas, tellement l'intensité métaphysique est présente. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Dagen ? Je projette.
Oui, je le pense. Je pense que même supposer une adéquation entre l'homme du quotidien et non pas l'artiste même, mais l'œuvre de l'artiste, c'est procéder à un raccourci ou à une assimilation contre laquelle, je crois, l'histoire et nos expériences immédiates ne nous permettent pas d'aller plus longtemps. On doit admettre que Latour est un peintre qui, en effet, a été susceptible d'œuvres qui nous apparaissent comme d'une très grande sensibilité religieuse, et que peut-être lui-même n'était pas exactement ainsi. Après tout, parmi les œuvres les plus pieuses et les plus émouvantes du catholicisme, il y a Caravage. Je ne pense pas que l'on puisse décemment citer Caravage, à moins d'avoir un esprit très large, comme un modèle de conduite. Après tout, il a tué un lascar dans un duel. Enfin, il s'est conduit un peu vivement. Il n'empêche que quand vous êtes devant la vocation de saint Matthieu, vous oubliez totalement que son auteur était un mauvais garçon.
Non, il est à genoux, c'est sûr.
Et voilà, bon, ouais. Donc ne demandons pas aux artistes de ressembler à leur œuvre.
Robert, donc on est convaincu. Maintenant, dites-nous quand même, on pourrait dire qu'il y a au moins trois Latour. Comment imagine-t-on cette différence aussi nette entre les scènes de jeu, les scènes nocturnes, et les pauvres, les misérables?
Écoutez, je ne pense pas qu'il y ait réellement de contradiction majeure. C'est un artiste qui évolue. Les apôtres auxquels vous faites allusion, les premiers tableaux, les Saint-Jérôme, etc., sont des tableaux de jeunesse, enfin, qu'on situe habituellement vers 1620. C'est très compliqué, la chronologie
parce
de la tour.
En fait,
il y a deux
rien.
Tableaux datés.
Oui.
C'est la tour. Donc,
c'est lesquels?
C'est les larmes de Saint-Pierre de Cleveland et le reniement de Saint-Pierre de Caco, de Nantes, qui est de 1650. Donc 1645-1650. Vous voyez que c'est la fin de la carrière. Je ne pense pas qu'il y ait... Ce qui est certain, c'est que l'écriture change et quand il passe aux nuits... Évidemment, les choses, elles se simplifient parce que ce qui l'intéresse, c'est les volumes dans la lumière, en fait. Et la lumière, vous savez, la lumière à l'époque, c'est un peu la mystique de la lumière. C'est un héritage de Saint Jean de la Croix dans beaucoup de prêches, il y est fait allusion. Je pense que il y avait des prédicateurs lorrains qui ont beaucoup parlé de cette spiritualité de la nuit. Donc la tour baignait là-dedans et en plus, il avait des commanditaires religieux qui lui disait quand même ce qu'il voulait. Je pense que c'était un artiste relativement libre, tout simplement parce que je crois qu'il y a, même dans les sujets religieux, un réalisme assez radical, contrairement à Caravage. Chez Caravage, les anges ont des ailes et des auréoles. Ah, oui.
Bah, oui.
Littéralement, Philippe.
Les personnages viennent de la rue, mais chez Latour, il n'y a plus rien. À telle enseigne que le nouveau-né qui fait la couverture de mon livre, au fond, on me dirait ce n'est pas une nativité, une vierge à l'enfant avec Sainte-Anne, mais c'est une scène de genre. Et le problème se pose toujours chez Latour. Le tableau que je préfère, dont que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est pareil. On dit c'est le songe de Joseph. Mais d'abord, quel songe? Il y en a au moins trois dans les Écritures. Il y a le mariage avec la Vierge, il y a le départ en Égypte, il y a le retour d'Égypte.
Est-ce que vous pensez, Philippe d'Agen, puisque Robert nous dit... Ces personnages sont des personnages du monde réel qui vivent dans une métaphore spirituelle qui est la nuit. Est-ce que vous pensez que c'est une façon extraordinaire de faire vivre à celui qui regarde le tableau le fait qu'il est dans cette situation, oui. Que la mère qui tient le fils n'est pas forcément la mère, mais c'est toutes les mères qui tiennent leur fils qui va mourir.
Qui va mourir...
Qui pourrait mourir.
Qui pourrait mourir, et qui va d'abord vivre. Je pense même que c'est la raison pour laquelle la peinture de Latour, enfin certains tableaux de Latour, sont susceptibles d'être, comment pourrait-on dire, enfin d'être prenants, d'être au fond efficaces, aujourd'hui encore, alors que une bonne partie de l'appareil de symboles, que ce soit les ailes des anges, les attributs des martyrs, sont devenus globalement assez extérieurs à nos contemporains et dans certains cas même des symboliques peu compréhensibles parce qu'on ne sait plus nécessairement comment est morte Sainte Agathe ou comment est mort Saint Laurent, alors que avec Latour, en effet, cet appareil disparaît, et en un sens, c'est peut-être un anachronisme que de s'exprimer ainsi, mais en fait, il actualise les Écritures. Oui. En les débarrassant de tout ce fatra serait péjoratif, enfin tout cet appareil de référence dans lequel, généralement, leur représentation a été prise, y compris, en effet, dans Caravage, qui ne, quelle que soit ma passion pour Caravage, je dois reconnaître qu'il ne se débarrasse pas autant d'un certain nombre de nécessités de iconographiques qui, chez Latour, fondent littéralement, enfin, sont vaporisés dans la peinture.
C'est pas le même tempérament, l'un.
J'aurais pu couper les ailes des anges.
Peut-être qu'à Rome en 1600 c'était plus difficile qu'à Lunéville en 1640.
Il y a quand même une différence. Robert Faure, vous qui aimez les ministres, je vous propose d'écouter ce que dit le ministre de cette question.
Les petites sources de lumière de Latour sont-elles seulement destinées à établir un éclairage? La lumière des caravagesques tend d'abord à séparer leurs personnages de l'obscurité. Mais ce n'est pas l'obscurité que peint Latour, c'est la nuit. La nuit étendue sur la terre, la forme séculaire du mystère pacifié. Ces personnages n'en sont pas séparés, ils en sont l'émanation. Elle prend forme en une petite fille qu'il appelle un ange, en des apparitions de femmes, en cette flamme droite de torche ou de veilleuse qui ne la trouble pas. Le monde devient semblable à la vaste nuit sur les armées endormies de jadis, où sous la lanterne des rondes surgissaient pas après pas des formes immobiles. Dans cette obscurité peuplée, lentement, une veilleuse s'allume, et elle fait apparaître des bergers serrés autour d'un enfant, la nativité, dont la flamme tremblante va s'épandre jusqu'aux limites de la terre. Aucun peintre, pas même Rembrandt, ne suggère ce vaste et mystérieux silence. Latour est le seul interprète de la part sereine des ténèbres. Dans ses plus belles œuvres, il invente les formes humaines qui s'accordent à cette nuit. Ce n'est pas à la sculpture qu'il aboutit, mais à la statue. André Malraux, 1951.
Vous êtes sur France Culture et vous écoutez L'Art et la Matière et nous parlons de Georges de la Tour, où nous venons d'entendre André Malraux dans Les Voix du Silence. Et il parle de la différence entre l'obscur, l'obscurité et la nuit. Comment est-ce que vous comprenez ça, Robert Faure?
En tout cas, par rapport à Georges de la Tour, la nuit, c'est très clair. C'est la nuit lumineuse. C'est-à-dire que dans la nuit, c'est l'être à la révélation de lui-même et aussi de sa petitesse. Et la présence de la flamme, c'est la présence de réconfortante de la divinité. On peut l'imaginer comme ça. Mais la nuit et l'obscurité, ben la nuit, elle est lumineuse. Dans la nuit, il se passe quelque chose. L'obscurité, c'est le néant, d'une certaine manière.
Est-ce que vous pensez, Philippe d'Agen, que le climat de l'époque fait... Parce que c'est quand même extraordinairement différent de Caravage. Malraux dit « c'est un peintre du silence », Georges de la Tour, j'ai le sentiment qu'il a raison. Caravage, vous parliez tout à l'heure, c'est un peintre du fracas. Il se passe mille choses. Comment est-ce que vous ressentez? Est-ce que c'est une nuit du silence? Est-ce que c'est une... Il n'y a pas un son.
J'aurais tendance à penser que c'est de la nuit. Et je vais venir à votre question.
Ouais, je ne
sais pas comment... Un peu
en berlificoté.
Non, je ne suis pas du tout. Je pense que... Je m'avance beaucoup et je n'ai pas le moindre élément de preuve, hein, évidemment. Mais j'ai l'impression que la nuit chez la Tour, c'est, si j'ose dire... Une nuit à la campagne. J'allais presque dire, mais une nuit dans les champs, ou dans la nature. On a beaucoup de mal à imaginer cela aujourd'hui, dans la mesure où il n'y a plus de nuit, et particulièrement dans les villes. Mais du moins en Europe. Mais dans certaines circonstances, aussi bien d'ailleurs en Europe que ailleurs, on peut encore faire une véritable expérience de la nuit. Je veux dire, la nuit sans lampadaire, la nuit sans phare, la nuit sans... Bon, et vous avez employé à l'instant le mot réconfortant. Je pense que l'on n'est plus tout à fait capable de mesurer, nous, faute d'expérience, à quel point la nuit noire, c'est quelque chose d'angoissant. C'est quelque chose qui est de nature à apporter la peur. Alors, rajouter à cela la guerre de 30 ans et les troubles en Lorraine, la nuit, si elle n'est pas nécessairement tragique, elle est en tout cas fortement menaçante. La nuit à Rome, vers 1600, c'est une rue habitée, c'est une nuit, nuit éclairée, c'est une nuit parcourue, y compris de patrouilles, ce qui n'est pas... Oui, absolument, c'est une nuit de taverne, c'est une nuit de passage. Donc, la question ne se pose peut-être pas exactement dans les mêmes termes. Et chacun peut en faire l'expérience. Il y a une lumière, fût-ce un cierge ou une bougie, dans une nuit... réellement nuit, ça a en effet une force d'attirance dont on a un peu aujourd'hui perdu l'habitude. Et la Tour me semble nous faire revenir à cette expérience des ténèbres. Là, et alors là pour le coup, puisque Malraux emploie le mot ténèbres, les ténèbres au sens vraiment inquiétant du terme.
Inquiétant ou de la leçon de ténèbres des musiciens?
Je ne sais pas si c'est... D'abord, c'est un élément, je dirais, de naturel à l'époque. On vit dans la nuit.
Oui.
On vit dans la nuit partie du temps.
Selon l'endroit où l'on vit.
C'est ce que mais, Philippe, vous avez raison là-dessus.
Mais même les maisons ne sont pas autant éclairées qu'elles le sont aujourd'hui.
Tout à fait.
Donc, voilà. Chez Caravage, il n'y a pas vraiment... Enfin, il y a un tableau de nuit.
Pas vraiment de nuit, non.
Qui est l'arrestation du Christ, le sujet l'impose, et d'ailleurs, il y a un éclairage artificiel dans ce tableau, il y a une lanterne. Il y a aussi les œuvres de miséricorde de Naples, où il y a une chandelle. C'est la particularité de la Tour, c'est de reprendre un thème qui est un vieux thème de la peinture occidentale, hein, la nuit. Ça existe depuis le XVe siècle. Et encore une fois, d'en faire le moment privilégié, dans des tableaux à sujet religieux, de la rencontre, parce qu'on est seul la nuit, une espèce de solitude, de la rencontre, du dialogue avec Dieu, clairement, à l'époque. Moi, je crois que c'est ça, en fait. Alors, l'angoisse, je ne sais pas. Ce qui est certainement, ce qui est vrai, ce qui est vécu, c'est une métaphore de la condition humaine, si vous voulez, de la solitude, de l'angoisse, etc. Mais dans la nuit, telle que l'a peint la tour, il y a le remède à cela.
Est-ce que il a trouvé là une formule qui reçoit immédiatement un succès, et est-ce qu'on lui commande des nuits? Est-ce que ça va devenir son best-of?
Oui. On a beaucoup de traces dans les archives de commandes. D'abord, du succès des nuits à cette époque-là. Il faut savoir que, et c'est peut-être la principale influence qu'a eu Georges Latour de l'extérieur, c'est les nuits des caravagistes du Nord, du Trecht. Terbruggen, Baburen, Honthorst, etc. Il est possible qu'il y ait eu là une influence. On n'en a aucune preuve, encore une fois. On n'a aucun document qui nous établisse un lien direct avec l'école d'Utrecht, voire des caravagistes flamands. Mais il faut voir que, en fait, il faut resituer tout ça dans un contexte où les œuvres d'art circulaient énormément. Les foyers de création n'étaient pas complètement repliés sur eux-mêmes. Il y avait une véritable circulation des œuvres d'art. À Paris, il y avait peut-être pas une grande école de peinture, mais il y avait beaucoup d'œuvres d'art.
Oui, je pense que c'est une époque où on peut dire d'une sorte de circulation internationale. Alors certes, évidemment, dans un espace qui est restreint à l'Europe occidentale et qui doit pouvoir aller jusqu'à Prague, à peu près vers l'Est, mais où les œuvres, les artistes, les gravures, les livres
circulent.
Enfin, oui. L'un des contemporains, je cite les gravures parce que l'un des contemporains de la tour qu'on n'a pas cité, c'est Callot.
Et Callot, c'est Paris aussi.
Et Callot, c'est Paris, et c'est la Lorraine, et c'est la guerre de 30 ans, et ce sont des dizaines de feuilles qui circulent.
Qui sont célébrissimes
mais
à l'époque.
Mais bien sûr.
Oui. Et qui sont dans des thèmes très très voisins, d'ailleurs.
Quelquefois.
Je pense aux joueurs de vielle, c'est par exemple. Qu'est-ce que la nuit, bien sûr, ensuite on parlera du jour, hein, si vous voulez bien, mais qu'est-ce que la nuit permet à Georges Latour d'atteindre plastiquement, qui en fait un artiste exceptionnel à ce moment-là? Parce que beaucoup d'autres artistes, vous le rappeliez, travaillent sur la nuit. Et lui atteint avec la nuit, est-ce que c'est cette découpe des volumes que vous évoquiez tout à l'heure?
Je vous dirais deux choses. D'une part, le caractère un peu opalescent des chairs.
Oui, c'est
à la fois une chair qui n'est pas épaisse, qu'au fond, que la lumière pénètre, qu'elle ne traverse pas, mais qu'elle pénètre et qui n'en devient que plus vivante. Et cette même capacité avec les étoffes, les tissus, qui ne sont pas inertes, qui ne sont pas des choses qui tombent selon les plis, mais qui sont des textures. Et au fond, pour répondre tout simplement, le fait que quand il peint une source lumineuse, il peint en même temps la pénétration de la lumière dans toutes les surfaces environnantes. Il n'y a pas une source lumineuse et des choses autour. Il y a la lumière qui envahit tout ce qu'elle peut éclairer.
Robert Faure.
C'est merveilleusement dit.
C'est bien dit, hein. Vous devriez écrire, Philippe Dagen.
Je vais garder votre conseil.
C'est ça. C'est que, en fait, il y a une présence effectivement de la lumière qui passe. Le tableau dont je tiens à reparler de l'apparition de l'ange à Saint-Joseph, c'est ça. C'est que la lumière pénètre, elle pénètre les chairs, effectivement. L'enfant, elle passe à travers la main. Ce qui, à l'époque, est d'ailleurs regardé comme un tour de force, hein, picturale. On admirait cette capacité des peintres à rendre des choses particulièrement difficiles.
Robert Faure, est-ce que lorsque Georges Latour peint les nuits, est-ce qu'il fait aussi simultanément des scènes diurnes? Ou est-ce que c'est successivement? Qu'est-ce que vous savez?
Vous posez tout le problème, c'est la chronologie. Quand on saura rétablir vraiment la chronologie
de Latour, vous êtes bien embarrassé là.
Ce qu'on sait, c'est que dans une période, dans la période de la jeunesse des premières œuvres, il y a un tableau étrange qui est conservé en Ukraine, l'argent versé. C'est pas exactement quel est le sujet, donc on l'a appelé l'argent versé. C'est un vieillard qui, c'est une scène de taverne, en fait, avec quelqu'un qui tient un registre et des gens qui lui versent de l'argent. Un vieil homme qui lui verse de l'argent. C'est une nuit au milieu des œuvres diurnes. Et le problème, c'est que ce tableau porte une date, mais qu'on est incapable de lire cette date. Ah, on n'en lit que la moitié.
C'est agaçant.
1600, quelque chose. Probablement avec un 1 à la fin, mais on ne sait vraiment pas.
J'imagine la souffrance de l'historien, hein, qui sait que c'est écrit, mais il n'arrive pas à le déchiffrer.
C'est horrible. Oui, comme c'est une vieille affaire, la souffrance, elle est surmontée. Mais... non, c'est étrange. Alors, on aimerait en retrouver d'autres. Il est probable qu'il a commencé à peindre des nuits assez tôt, mais c'est devenu, il s'est spécialisé en quelque sorte à partir. Et ça coïncide curieusement avec la guerre de 30 ans. C'est vrai. À partir de la fin des
années 1630. Par exemple, lorsque vous, ça serait juste chronologiquement. Lorsque l'on regarde Job, vous dites, et c'est un très joli moment dans votre livre, vous dites, on s'étonne qu'il n'y ait pas les batailles de la Lorraine qui apparaissent, mais Job, qui est méprisé par sa femme, est un tableau dans lequel on sent toute la souffrance de l'époque, en fait.
Hein? Absolument.
C'est assez joliment formulé, absolument, beaucoup mieux que ce que je viens de faire, mais vous en parlez. Et au fond, c'est quelqu'un qui retient, ou qui exprime de la façon la plus sobre une souffrance très générale, ou une situation très générale.
Je pense que ça joue beaucoup dans son inspiration, hein, le contexte. Dans son comportement, d'abord, lui-même, on a dit qu'il était violent, qu'il avait... Mais l'époque est violente. On est dans un contexte de grande violence. Il faut se défendre. On défend ses intérêts, on défend sa vie, on défend sa maison. Donc, voilà. Je pense qu'il est très imprégné de ce qui se passe autour de lui. D'ailleurs, il ne peut en être différemment, parce que sa maison est détruite, à un moment, il est obligé de fuir Lunéville, etc. Et je pense que ça a beaucoup contribué à concentrer, en quelque sorte, son travail sur cette poétique de la nuit.
Alors, j'aimerais bien qu'on écoute quelques instants un autre texte de Quignard.
Les images de Georges de la Tour ne peuvent se comprendre sans Bérulle, sans Saint-Cyran ou sans Esprit. Il croyait à l'idée d'une reviviscence de la vraie piété initiale, sévère, antique, pure, majestueuse. Pour la contre-réforme, à l'idée de restauration du christianisme des premiers siècles, s'est toujours mêlée une rêverie sur la Rome primitive. Il fit de la nuit son royaume. C'est une nuit intérieure. Un logis humble et clos, où il y a un corps humain qu'une petite source de lumière éclaire en partie. Telle est l'unité de l'épiphanie. 1. La nuit. 2. La lueur. 3. Le silence. 4. Le logis clos. 5. Le corps humain. Quelques grandes couleurs vigoureuses, auprès desquelles le nain paraît froid, triste, vert, grisé. Les oranges et les rouges de la tour brûlent par-delà le temps comme des braises. Ce qui n'est qu'un reportage sur une toile des le nain devient une scène éternelle. Une masse brune, une flamme citron, un rouge franc, un vermillon plus sourd. Une grandeur triste. Pascal Quignard, Georges de la Tour, 1991.
écoutez L'Art et la Matière sur France Culture, évidemment, et nous parlons de Georges Latour. Et au moment où commençait le texte de Quignard, je voyais Philippe d'Agen s'énerver parce qu'on parlait encore une fois de la contre-réforme, et à ma droite, Robert Faure s'énervait parce qu'on parlait de Bérulle, Saint-Cyran ou Esprit. Pourquoi ? C'était pas utile de citer cette situation ? Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe d'Agen ?
Bon, c'est moi le début de la citation, personnellement, qui me gênerait que la fin. Je me disais en l'écoutant qu'il fallait être bien raisonnable et ne pas abuser de l'adjectif quand on écrit sur la peinture, car on finit assez rapidement par lui faire endosser des costumes pour lesquels elle n'était pas nécessairement faite. C'est une précaution que je devrais m'appliquer à moi-même, je vous le dis avant que vous me le disiez. Ensuite, que l'on parle de la piété, sans doute, mais j'imagine que Robert Faure va répondre, et à juste titre, que là encore, on est dans l'ordre de l'hypothèse, et de la projection, et qu'il est difficile d'affirmer grand-chose en la matière.
Moi, je ne sais pas vraiment répondre à la question des sources religieuse de Georges Latour.
Mais du climat quand même, non ?
Alors le climat certainement, la contre-réforme, bon, elle est quand même un peu avancée à l'époque.
Oui, ça fait un moment.
Le Port-Royal, Saint-Cyran, je pense pas que ce soit utile, c'est plutôt côté Champagne que ça se passe.
Vrai, ouais.
Et Champagne et Latour, c'est vraiment deux artistes très très différents. Les franciscains, les carmes, et leurs besoins d'images me suffisent d'une certaine manière. D'autant plus que pour Latour, c'est une autre inconnue. Alors, Quignard, dans Tous les matins du monde, parle d'un personnage grand, etc. C'est dans Tous les matins du monde.
Hein. Oui.
Mais dans le livre le texte qu'il a fait sur Georges Latour, il n'en parle pas. On ne sait rien de Latour au physique. On ne sait pas à quoi il ressemblait, contrairement à beaucoup d'artistes du XVIIe, où il y a une petite gravure ici ou là. On a rien. On a beaucoup dit que le tricheur à l'as de carreau qui se retourne vers le public, ça pourrait être Latour. C'est possible, mais j'en sais absolument rien.
Quelle époque le tricheur? Alors c'est cette assemblée autour d'une table.
Vers 1630, 35.
Donc ce que vous dites, c'est que le tricheur...
C'est à la charnière.
Est à la charnière des nuits, c'est ça que vous pensez?
Oui, peut-être contemporain des premières nuits. C'est une question.
La répétition, Robert, parce qu'il y a le tricheur à l'as de carreau, il y a le tricheur à l'as de trèfle.
Alors,
il y a
pour moi, le tricheur à l'as de trèfle vient avant le tricheur à l'as de carreau, ce qui n'est pas la position de tout le monde. Je pense que c'est un tableau. Il y a des maladresses dans le tricheur à l'as de trèfle, mais aussi une espèce de raffinement extrême du coloris qu'on ne retrouve plus dans le tableau du Louvre, qui est un tableau beaucoup plus synthétique et proche des Madeleines. Hein. Bon, quand on a dit ça, voilà, on peut guère en dire plus. Ce qui est certain, c'est que c'est le même peintre, la même composition, non seulement la même composition, mais c'est d'évidence la même main. Le problème de l'inspiration de Latour, c'est que on ne sait, il n'y a pas d'inventaire après décès. C'est un des artistes du 17e qui est mort. Il est peut-être mort intestat, d'ailleurs. Il n'y a pas de testament. On sait que ses enfants ont eu de l'argent et qu'ils en ont d'ailleurs distribué autour d'eux. Mais il n'y a pas d'inventaire après décès. Donc on ne sait même pas s'il avait une bibliothèque. On ne sait pas. Voilà. C'est ce qui restait de son fonds d'atelier qui avait en grande partie brûlé en 1638. C'est tout ça est très troublant. C'est quelqu'un qui nous déroute tout le temps.
En fait, le nombre de sujets, Philippe d'Agen, de Latour, sont assez restreints. Il y a 4 ou 5 scènes majeures du Nouveau Testament. Il y a des scènes de triche et des scènes de jeu. Et puis, il y a des scènes de gens très modestes ou d'aveugles. Voilà. C'est assez restreint et c'est toujours des sujets iconographiques très partagé avec les artistes de l'époque.
Oui,
donc
l'originalité
de Latour n'est pas dans les sujets.
Elle pourrait être... les scènes des tricheurs, par exemple, il est très loin d'être le seul à en avoir peint. Ceci étant, ce n'est pas néanmoins un sujet qui est totalement anodin, parce que il y a la triche, il y a le mensonge, il y a généralement le vol et même des soupçons de prostitution généralement qui traînent dans le tableau. Donc quand on dit le tricheur, c'est tout de même aussi une assemblée de vices.
Oui.
Et cette assemblée de vices, on peut, j'imagine, assez aisément la mettre en rapport ou en contradiction avec les tableaux qui seraient, eux, au fond, si j'ose dire, des tableaux de vertu. Qui sont les tableaux qui sont les plus explicitement chrétiens de Latour. Donc, à la fois, il reprend à son compte des sujets qui sont en effet qui courent un peu, et probablement est-il tenu aussi de concéder un certain nombre de choses à ce qui est à succès, à ce qui est demandé, soit par des commanditaires, soit par des collectionneurs possibles. Bon, il ne va pas à rebours de l'époque. Mais ceci étant, il me semble qu'il y a, dans y compris dans le petit nombre des sujets que vous avez évoqués, une forme de cohérence qui est peut-être moins quelquefois une cohérence stylistique qu'une cohérence dans le sens moral que l'on peut attribuer à un certain nombre de tableaux, y compris les batailles de musiciens, etc., qui c'est l'intempérance, c'est l'ivrognerie, c'est l'hubris. Bon, on doit pouvoir articuler les choses entre elles.
Les joueurs de cartes, les diseuses de Bonaventure, c'est aussi l'enfant prodigue. Et les gens de
l'époque. Vous voulez dire que.
Qui se fait avoir.
Oui. C'est un épisode de la vie de l'enfant prodigue avant qu'il soit prodigue.
Voilà. Justement. Voilà. Ouais. Les contemporains savaient très très bien décrypter ce genre de choses. Et ces sujets-là pouvaient être d'ailleurs présents dans des collections, dans un contexte pas non religieux.
Mais c'est quasiment un tableau d'éducation. C'est pour un jeune homme, tu vas te faire prendre
et
dans
puis,
la ville.
L'éducation est de moquerie.
Oui.
On sait que les collectionneurs, les gens qui assemblaient des tableaux comme ça chez eux, c'était aussi pour s'en gausser. Tu vois, il est naïf, il se fait voler, etc. Il y avait un jeu social autour de cette peinture-là.
Robert Faure, puisque nous sommes au bord de clore cette émission, vous avez également clos, j'imagine, totalement les études à faire sur Georges Latour. Maintenant, c'est tout. Non, il reste des choses à découvrir.
Ça reste une préoccupation parce que moi, je suis en train de travailler avec deux amis historiens d'art sur ce qui se passe à Paris avant le fameux le retour de Vouet de Rome, 1627, qui est le point de départ de la nouvelle peinture française. Mais vous savez, c'est terrible parce que ça remonte à Dimier, cette affaire-là. On dit qu'il ne se passe rien, parce qu'il ne peut rien se passer sans Rome. Or, je pense que nous allons essayer de prouver le contraire. Que Paris est un grand foyer d'où peuvent sortir des personnalités. Il y a beaucoup d'artistes parisiens qui ne sont jamais allés à Rome au XVIIe siècle.
Donc c'est comme aujourd'hui. Merci infiniment Robert Faure. Voilà. Merci de tout cœur Philippe Dagen.
Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
C'était l'art et la matière par Jean Deloisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Et aujourd'hui, j'ai reçu Robert Faure et Philippe Dagen pour évoquer Georges de la Tour à l'occasion du livre Georges de la Tour, le maître des nuits, paru chez Cohen et Cohen. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. C'était une émission faite en collaboration avec Sam Boutata. Recherche et choix des textes, Héloïse Alluin. Merci Héloïse. Lecture des textes, Hélène Losseur. Prise de son, Claire Levasseur. Réalisation Franklinin, comme toujours. Merci Franck. Et dans quelques instants, Personnages en personne par Charles Danzig. Bon après-midi sur France Culture.